Eh bien, bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans la station Ozone le jeune et sémillant Arnaud Villanova, qui vient nous parler de son livre, de son nouveau livre, de son premier livre surtout, qui est consacré à Georges Lambrix, une biographie qui paraît dans les prestigieux cahiers de la NRF. Voilà. Nous allons donc échanger pendant une heure autour de ce personnage des lettres, peut-être un peu oublié, et il va nous expliquer en quoi la mémoire de Georges Lambrix est-elle importante. Il publie donc ce livre chez Gallimard, La Maison, qui a longtemps été celle de Georges Lambrix. Et pour en parler, nous allons lui poser quelques questions pour savoir un peu de quoi il retourne avec cet être mystérieux qu'on appelle un éditeur. Un éditeur, c'est ce personnage dont on ne sait jamais trop quoi penser, sinon s'en plaindre. Alors, vous venez donc sortir une biographie. C'est assez rare pour le dire, ce n'est pas une étude, c'est une biographie que Jérôme Garcin a déjà qualifiée de merveilleuse et lumineuse. Vous voilà déjà paré d'une petite étoile sur votre veste. Voilà. Alors, Arnaud Villanova, vous êtes doctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est ça. Vous avez terminé ce travail qui était un premier travail d'étude et actuellement, vous êtes en train de faire une thèse dont vous nous parlerez peut-être un peu sur un sujet qui n'est pas aussi éloigné que ça du nôtre. Alors, vous vous intéressez donc à un personnage important mais méconnu du grand siècle Gallimard. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire comment un jeune homme étudiant s'intéresse un beau matin à Georges Lambrix ?
Eh oui, bien sûr. Le point de départ de ce livre, c'est donc un mémoire de recherche à l'origine que j'ai fait dans le cadre d'un master. C'est un peu rare, effectivement. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Moi, je m'étais déjà un petit peu intéressé au monde de l'édition pendant mes études, pendant ma licence. C'était quelque chose qui m'intéressait un peu. Je me demandais comment les textes que j'avais dans les mains m'arrivaient dans les mains, en fait, par quelle circulation ils me parvenaient, en quelque sorte. Et donc, arrivé en mémoire de recherche, évidemment, j'avais quelques idées un peu floues. J'étais un petit peu plus jeune. Et je pensais travailler sur ce que je lisais à l'époque, qui en fait n'était pas du tout original, et qui avait déjà été traité, c'est-à-dire je pensais à Kundera, je pensais à Barthes, je pensais à Proust, mais en fait tout a déjà été un peu écrit sur eux. Et à travers des discussions avec mon directeur de recherche, qui est toujours Olivier Bessard-Banqui, qui m'a conseillé le nom de Georges Lambrix, j'ai fait quelques recherches et en fait, bon, c'est une anecdote que je raconte au début du livre. Je venais de lire un petit éloge du bout du chemin, qui est un petit texte écrit par Jean-Marie Laclaftine, où il y a un petit éloge du chemin et de sa relation avec Lambrix. Et le nom de Lambrix, qui est effectivement peu connu, je l'avais jamais rencontré avant. Je venais de le rencontrer en lisant ce petit texte. Olivier Bessard-Banqui m'en parle et en regardant un peu les noms, je me dis, mais je les connais ces noms, mais Michel Butor en fait. Je l'ai lu et Samuel Beckett aussi. Et les noms qui revenaient un petit peu comme ça, je me dis, mais je me sens un peu en familiarité aussi avec tout ça. Et donc, par cette espèce de petite série de hasards, en quelque sorte, j'ai vu là un peu une sorte d'injonction. C'était aussi une manière pour moi d'aller vers quelque chose que je connaissais pas, parce que en études, on étudie beaucoup les années 60-70 à travers le prisme soit du nouveau roman, soit du structuralisme. Et là, je voyais un peu un continent que j'avais pas exploré et qui me semblait pas qu'on allait explorer. Et avec l'amour des premières fois, je me dis bah, peut-être que ça peut être intéressant d'y aller.
Alors, vous êtes arrivé justement vierge de tout a priori. C'est votre génération qui vous le permet. Vous êtes encore dans la vingtaine. Donc, pour vous, Georges Lambrix est mort peut-être avant votre naissance.
C'est un an avant.
Voilà, un an avant. Donc, vous n'aviez pas d'a priori sur lui. Donc, vous êtes arrivé peu vierge devant ce sujet. Le premier point de vue que vous avez eu sur lui, ça m'intéresse, essayez de vous rappeler comment il vous est apparu, ce drôle de bonhomme, pas facile à cerner.
Effectivement, oui, je connaissais pas grand-chose, c'était très, très jeune. Il y a des gens qui, par ailleurs, quand j'ai commencé à dire que je travaillais dessus, m'ont dit, mais oui, mais ça me dit quelque chose, le chemin. Mais moi, effectivement, j'en savais peu de choses. Moi, ce qui m'a marqué très tôt, et après, il y a plein d'autres choses qui se sont déployées ensuite, mais ce qui m'a plu, c'est plus prosaïque peut-être, c'est cette histoire de déjeuner, de rassemblement et d'amitié. Et en fait, plus je me mets à en parler là avec la sortie, et un peu en relisant les épreuves, plus je vois que cette question de l'amitié a été assez importante. Je le sentais un peu, Serge Martin qui a écrit un livre dessus, l'a discuté aussi, en parlant de cette relation amicale qui... prenait le dessus sur les relations de pouvoir, etc., qui n'était pas une amitié copinage, mais qui était une amitié fidèle, qui était une amitié loyale. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui, moi, me parlait assez personnellement, et parfois, on n'écrit pas sur autre chose que sur soi-même. Même quand on écrit une biographie, quand même, on a toujours des courroies qui nous mènent à nos petits trucs. Et cette idée de rassembler des écrivains, de les laisser parler, de les écouter, qu'ils se connaissent, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'il y ait un peu de vin, qu'il y ait à manger, et que ça dure des heures et qu'on retourne tard ensuite au bureau ou à la maison d'édition, je me suis dit, j'ai envie d'y être dans cette tablée, j'ai envie de les écouter parler. Et je dis un petit peu, quoi, Lambrix, quand il était jeune, il me semble que c'était un petit peu ça qu'il y avait chez lui, quoi, qu'il y avait un peu ce truc... où il y avait du brouhaha, où il y avait de la discussion, où il y avait de la parole, et que ça créait quelque chose, et que ça créait une oreille, que ça créait un goût, que peut-être aussi, quand ça parle, c'est qu'on est silencieux aussi, et qu'on écoute. Et donc cette espèce de... Oui, je me suis senti en amitié avec ça, avec ces déjeuners, ces rencontres, et le fait qu'il y avait un peu de monde. Et même si le travail d'écriture est assez solitaire en permanence, enfin quand on écrit en tout cas, cette idée de vouloir les rassembler, de les rassembler autour d'une table, de les faire vraiment mais parler de tout, parce que évidemment, comme tout groupe à la fin, un groupe d'amis, on s'engueule aussi sur d'autres choses, on trompe avec la copine de machin, on s'engueule sur je sais pas quoi de Julien Gracq, enfin il y a mille choses en fait qui circulent, comme dans tout groupe d'amis, et moi j'avoue que ça m'a quand même séduit de
oui, donc
voir,
vous voyez,
voir de l'amitié.
Vous voyez un peu Georges Lambrix, ce qui est une image assez rare qu'on a de lui, comme un chef de bande, alors que curieusement c'était plutôt pas ça finalement au bout du compte.
Alors, chef de bande, mais très discret, il était directeur littéraire, mais peut-être pas directeur de la bande. Bon, il a beaucoup insisté dessus, les auteurs qui l'ont rencontré ont beaucoup insisté dessus aussi. Il n'y avait pas de groupe au sens où il y avait une ligne, etc. Et lui était le...
Oui, ça, on évoquera ça,
etc.
Mais
c'était celui qui invitait, quoi. Et après, il se taisait quand même. C'est-à-dire que son plaisir, c'était quand même d'être en bout de table avec sa pipe et de ne pas dire un mot et de regarder les gens vivre. Et il y a quelque chose un peu comme ça de... d'ouvrir un peu des énergies et de se dire mettez-vous à table et moi on verra bien ce qui se passe.
Oui,
quoi.
C'est le côté un peu paradoxal du personnage. Il s'entoure mais en même temps il parle très peu. Mmh. Hein, c'est un peu l'équivalent chez Grasset, c'était un peu Jean-Claude Fasquelle qui ne parlait pas aux gens qu'il invitait. Donc c'est cette tendance-là. Un homme qui aime être entouré mais qui a plutôt choisi le silence comme mode de communication. Voilà. Mmh. Alors revenons un peu au début, Georges Lambrix, c'est le plus grand éditeur français belge. Puisque Georges Lambrix a longtemps été belge avant d'être naturalisé. Alors, d'où vient cet homme? Comment se fait-il que ce Belge, qui a grandi à Bruxelles, je pense, soit devenu comme ça un éditeur parisien, véritablement un éditeur parisien?
Mais c'est intéressant comme trajectoire, parce qu'effectivement, à la fin de sa vie, il grand éditeur, il prend la direction de la NRF, après être passé par les Cahiers, donc... On a l'impression qu'il est arrivé. C'est un gamin qui veut être astronaute, qui devient astronaute, quoi, presque. Donc, quand il est jeune, bon, il grandit dans un milieu plutôt aisé, plutôt bourgeois culturellement. Il y a de la musique, il y a des livres partout. C'est important de le dire, quand même.
Il est nanti d'un frère jumeau, ce qui est assez étonnant.
Exactement,
quand même.
D'un frère jumeau qui s'appelle Marcel, qui s'appelait Marcel Lambrix. Où il y a quelques anecdotes, d'ailleurs, où ils échangent un peu les rôles pour les évaluations à l'école et parfois pour les femmes, paraît-il. Mais il a ce frère jumeau, et je crois qu'il a été pris, peut-être aussi pour ça que je me suis senti un peu d'amitié avec, il a été pris aussi d'un certain amour de la... je dirais un peu de traîner d'une certaine manière, mais dans le bon sens, c'est-à-dire peut-être de la flânerie. C'est pour ça que peut-être que l'image du chemin revient 40 ans plus tard. En Belgique, il aimait bien quand même... aller en cours et se mettre sur les bancs et un peu traîner dehors, et puis pas forcément passer des diplômes, des examens. Parce qu'il a pas de diplôme, en fait.
Vous parlez de bohème, hein, souvent. Vous
ouais,
il a un côté
ouais,
bohème.
Ouais. Exactement ça. Et je pense que ce côté bohème, ça lui a donné un peu du temps pour lire, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour lire, finalement. Il faut des heures entières, il faut des volumes d'heures, il faut sortir un peu des impératifs permanents qu'on a tous dans la vie. Et de fait, dans les années 30... quand on veut lire, la NRF est quand même importante. Elle est tirée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, même jusqu'en Belgique, elle y arrive, en Suisse aussi. Donc, c'est dur encore de situer. Moi, je le savais assez peu, finalement, quand j'avais 20, 22 ans, que la NRF avait eu cette importance plusieurs dizaines d'années auparavant. Et c'est en lisant, en voyant un peu ce qu'on en dit, mais oui, mais c'était l'Instagram de l'époque, quoi. Tout le monde regardait ça, en quelque sorte.
Instagram avec du contenu, d'accord.
Avec du contenu, bien sûr. Et donc, ça lui arrive dans les mains. Ça lui arrive dans les mains et... Et il se met à se dire, bon, bah, je veux aller là-bas, quoi. Je veux aller là-bas. Et il écrivait un peu des choses, quand il était jeune, que de pas extraordinaire, mais il avait des velléités d'écriture quand même.
Oui, il a quand même été du côté de l'écriture, on en reparlera, ouais. Mais c'est quand même un écrivain aussi.
Ouais, 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 on en reparlera, évidemment. Il a un peu écrit, donc je pense qu'il y avait ce désir-là absolu de évidemment, de se dire, bon, bah, moi, je vais me mettre à écrire, et s'il y a un seul endroit où j'ai envie d'envoyer mes textes, en fait, c'est à ce que je lis, c'est le lieu où j'ai envie de les lire, etc. Donc, je pense que ça s'est fait un petit peu comme ça, sa jeunesse, et je pense qu'il avait une envie, mais folle, d'y aller chez Gallimard, en fait.
Oui, parce que
son temps à vouloir être chez Gallimard.
Son fantasme, et ce qui est assez exceptionnel, mais c'est d'être chez Gallimard, d'être dans Gallimard. Et son accomplissement, c'est ça.
Ouais.
Et pourtant, vous parlez d'un jeune homme, d'un jeune homme qui a la vingtaine. Alors, il ne va pas commencer par Gallimard. Gallimard, il le lit, mais c'est une sorte d'horizon inatteignable. Il va faire ce que font beaucoup d'apprentis écrivains, les revues. Voilà. Alors lui, c'est presque un concours de circonstances qui fait que, je sais pas, il y a la guerre surtout, il est là pendant la guerre. Rappelez-nous l'année de son année de naissance, il est né en
1917.
Voilà, hein, donc c'est quand même un enfant qui arrive à majorité au moment où l'autre guerre éclate. Comment va se révéler un peu ce fantasme éditorial pour lui? Crée une revue, enfin, il crée pas une revue, il se retrouve presque de façon circonstancielle.
Un peu embarqué là-dedans. Il se retrouve à bosser en imprimerie et il y a la crise du papier, etc. Et donc, il arrive à faire imprimer en fait dans cette imprimerie belge, si je me trompe pas, à faire imprimer dans cette imprimerie belge des revues françaises clandestines ou alors. Ça dépend des périodes, ou alors aller faire parvenir en Belgique, ou alors aller faire parvenir en France. Ça dépend un peu des années. Il a eu 2-3 rôles comme ça avec Paul Demand, justement. Et il y glisse ses textes, en fait. Et il a quelques textes qui met, mais presque, bon, je sais pas si c'est légende ou pas, mais en tout cas qui rajoute un peu par lui-même au sommaire parce qu'il a la revue en main. Et donc son nom commence un petit peu à apparaître. On voit le nom de Georges Lambrix sur les exemplaires qui sont en annexe, semble-t-il. Où on voit dans l'exercice du silence à côté de plein de noms très célèbres, de Schumberger d'ailleurs entre autres, de Polan et tout ça, ce petit nom de Georges Lambrix qui à l'époque il a 25 ans quoi en fait.
C'est un petit jeune. Alors vous avez prononcé le nom magique, Polan, ce nom qui a fait frémir et rêver des générations de lecteurs. Polan c'est l'homme de Gallimard, c'est l'éminence grise de Gallimard, c'est celui qui fait tout hein, pendant que Gaston fait du commerce. Très tôt chez Lambrix, il y a le sentiment que la personne à viser, c'est pas Gaston, ça viendra plus tard, mais c'est Jean Paulhan. Alors expliquez-nous un peu qui est ce Jean Paulhan, qui n'est plus très connu. On réédite ses correspondances. Sa petite fille a créé une maison d'édition, une magnifique maison qui s'appelle Claire Paulhan. On se rend compte que cet homme connaissait tout le monde, avait des échanges avec toutes les personnalités importantes, conseillers, etc. Mais on a l'impression que Lambrix, c'est plutôt Paulhan qui vise, que le fantasme, c'est Paulhan. Alors Paulhan, qui est cet homme? En tout cas, à ce moment-là.
Jean Paulhan, à ce moment-là, alors il a pris la direction de la Nouvelle Revue Française, après Jacques Rivière, me semble-t-il. Évidemment, Éminence Grise, c'est l'image qui ressort souvent sur lui, homme qui fait les connexions entre minuit, enfin minuit n'existe pas encore, mais entre les maisons, en tout cas, il est revu, fait passer tout le monde, et c'est un peu le centre névralgique d'où, par lequel il faut passer dans le monde littéraire d'entre deux guerres et même d'après-guerre d'ailleurs par la suite. Alors c'est à lui qu'il écrit en premier, Georges Lambrix, qui lui envoie un petit manuscrit dont on a assez peu de traces et que Paulhan refuse d'ailleurs.
Paulhan refusant souvent.
Oui, mais conseillant quand même, ouais, voilà. Conseillant quand même et faisant peur en plus parce qu'avec une certaine austérité d'une certaine manière. Perros, Butor en parleront ensuite que bon, ils ne sont peut-être pas sentis en amitié tout de suite avec cette figure un peu froide comme ça. Et donc, il lui écrit, il se rencontre. Alors, bon, moi, j'ai pas versé absolument dans la psychologisation. Il me semble quand même qu'à un moment donné, ça a été une forme de mentor pour lui. Pour quelle raison, ça serait autre chose. Mais que quand même, il a vu dans cet homme-là pas quelqu'un qui allait le guider, parce que même assez tôt, il comprend bien qu'un écrivain, il est toujours un peu tout seul, c'est toujours un peu solitaire. Mais en tout cas, qu'il y a cette figure-là qui peut aider, qui peut écouter, qui peut de temps en temps dire un mot, qui est la figure de l'éditeur ou du directeur littéraire, ça dépend comment on l'appelle. Moi, j'aime bien le terme de collectionneur aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la galerie, de la collection, etc. Et donc, très tôt, il se lit avec Paulhan, publie ses textes en revue pendant la guerre, évidemment. Mais c'est après la guerre que, véritablement, ils deviendront amis, puisque, bon, le conflit sera passé et donc Lambrix arrivera à Paris.
Alors, vous l'évoquez justement, Lambrix ne rentre pas chez Gallimard, parce qu'on n'y rentre pas. On n'est pas édité comme ça chez Gallimard, on ne rentre pas comme ça chez Gallimard. Il faut franchir des barrières. Et Lambrix va se retrouver chez Minuit. Alors, quand il est chez Minuit, il est, pour beaucoup de gens, Minuit, c'est Jérôme Lindon. Il est là avant lui. Et alors, quelle est la place? Comment il y rentre déjà chez Minuit? Et comment, quelle place va-t-il y trouver? Ce qui est très important, parce qu'on reviendra à Paulhan après. Le lien se fait même chez Minuit. Comment s'installe-t-il chez Minuit?
Alors, il arrive chez Minuit, mais par ses affaires de guerre, de revues clandestines, etc. Parce que Minuit se forme à ce moment-là, mais publie dans différents endroits, en Suisse, en Belgique.
C'est une maison de la résistance, il faut le dire. C'est la maison de Vercors.
Voilà. Avec le silence de la mer, qui est célèbre, qui est adapté au film, tout ça. Donc vraiment, cette petite maison de résistance. Et donc, Lambrix s'étend un peu dans ces courroies-là pendant ces 2-3 années avant 45. En fait, à rencontrer ceux qui vont être à l'origine des éditions de Minuit.
Jean Lescure.
Je ne me trompe pas, c'est bon. Jean Lescure, qui en fait vient le chercher en Belgique. Et là, bon, j'écris un peu la scène, mais elle me semble un peu folle et en même temps amusante. Où vraiment, il va le chercher chez lui. Il dit, j'ai un boulot pour vous, venez.
J'ai même un petit boulot, vous serez mal payé.
Pour vous, mais vous serez mal payé, venez. Et il y a quelque chose. Et en même temps, c'est aussi la proposition qu'on peut pas refuser, parce que même si Minuit est tout jeune et que ça n'a pas encore l'image qu'on en a aujourd'hui, bon, ben en fait, en Belgique, Lambrix, il a pas grand chose à y faire. Il est chez lui, je crois qu'il est encore chez ses parents à ce moment-là. Donc, je pense qu'il se voyait pas dans l'édition belge particulièrement, et que pour lui, l'endroit où il fallait aller, quand même, c'était Paris, les maisons d'édition parisiennes, quoi. C'était quand même là qu'il fallait aller. Donc, il se retrouve chez Minuit. Un peu directeur littéraire, mais touche à tout, ou en tout cas relecteur au début. Bon, je pense comme dans toutes...
comme toutes les petites maisons, c'est-à-dire qu'il fait un peu tout.
Fait un petit peu tout, puis en plus en après-guerre, donc le climat est particulier. Et donc il est là avant Jérôme Lindon. Il est là avant Jérôme Lindon, il repère des manuscrits, et Jérôme Lindon qui arrive, mais qui est très jeune en plus quand il arrive. Lambrix a presque 10 ans de plus que lui finalement.
Puis qui est à la fabrication en plus, Lindon, enfin ouais, qui est dans un poste...
Et puis ça crée en plus un peu des remous, donc il y a eu... Bon, Anne Simonin a beaucoup travaillé dessus, elle a fait tout un travail beaucoup plus important et volumineux que le mien, pour vraiment où elle décrypte tous ces petits moments et toutes ces soirées, et tout ça, c'est assez passionnant d'ailleurs, qui se passe.
Mais chez Minuit, il est le directeur littéraire, c'est lui qui trouve les textes.
C'est lui qui
donc s'impose très tôt ce moment que c'est lui le découvreur, c'est lui le lecteur en quelque sorte chez Minuit. Voilà. Alors, vous racontez une chose assez étonnante, qui est que finalement la courroie dont vous parliez entre Minuit et Gallimard, elle existe par Paulhan, et que Minuit est un peu le réceptacle des livres que Gallimard pense ne pas pouvoir vendre. Alors, comment ça se passe, cette organisation qui nous paraîtrait absolument insensée maintenant?
Peut-être insensée. Après, c'est vrai qu'il y avait ce moment où il y avait des auteurs, comment dire, peut-être pas à risque, mais où Gallimard se disait, il y a peut-être quelque chose, nous, on ne va pas les prendre. On va aller chez le Minuit, qui peut-être peut envoyer des textes un petit peu plus confidentiels. Et Paulhan joue cet entremetteur-là, puisqu'il est toujours ami avec Lambrix, que Lambrix y est, et que donc les manuscrits circulent un peu d'une maison à l'autre, selon qu'on se dit ça va beaucoup se vendre, ça va pas beaucoup se vendre. Alors moi, je pense que ça existe encore un petit peu aujourd'hui, parce qu'il y a toujours ces affaires de ce qu'on peut produire en termes de volume de livres, de distribution, etc., plein de choses comme ça autour des prix. Donc il y a toujours un peu cette petite distribution, et aussi de la part des auteurs, qui parfois veulent aller chez des maisons plus confidentielles, ou à l'inverse, chez des plus grosses structures.
Oui, mais là Gallimard fait quand même travailler à l'œil une petite maison d'édition qui perd de l'argent pour éditer des livres compliqués, dans l'idée que on récupérera les auteurs une fois qu'ils auront fait leur voilà. Hein. Et Lambrix fait totalement partie du système, sans doute du fait de son admiration très forte pour Paulhan.
Oui. Moi, je pense qu'il est pas non plus aveugle au fait que il se place, mais il y a quand même des correspondances où il continue de dire quand est-ce que j'aurai ma place chez Gallimard. Est-ce qu'à un moment donné, ça se libérera? En attendant, je fais ça. Et donc, il travaille en sous-main quasiment pour Gallimard.
Ça, vous êtes un peu le premier à le dire. C'est-à-dire d'oser dire que, en fait, Lambrix a toujours comme horizon Gallimard, même quand il est chez Minuit. Ce qu'on pourra peut-être lui faire payer d'une façon ou d'une autre.
Oui, voilà. Sans doute.
Est-ce que Lindon... Alors, curieusement, chez Minuit, il fait quand même un beau travail. Alors, il a une particularité. Minuit, c'est la maison de la Résistance, c'est la maison de Vercors. Elle s'est forgée son identité... sur ce nom-là, Lescure défend ça. Et pourtant, Lambrix c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Lui, c'est il, très vite, il ne veut pas considérer cette maison comme la maison, comme un abri des résistants. Qu'est-ce qui, comment il la conçoit, cette maison?
Je sais pas s'il avait une... Bon, il a écrit quelques textes où on sent... Enfin, quelques... Il y a quelques extraits des éditions de Minuit, de billets des éditions de Minuit, dont on sent qu'ils ont un peu été écrits ou un peu dirigés, en tout cas par Lambrix. Parce qu'il y a cette ligne-là qui est, bon, ce qu'il dit sous un peu comme une formule, mais la ligne, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Moi, je pense qu'il se dit qu'il soit chez Minuit, qu'il soit chez Grasset ou qu'il soit chez Gallimard, il a un peu envie de publier ce qu'il aime. Et alors, son goût, c'est autre chose. Il s'est forgé d'une certaine manière et ailleurs, etc. Ce serait un autre sujet. Et je pense qu'il a un peu cet œil-là et qu'il se dit, bon, moi, quand je le sens, j'ai envie d'y aller. Et qu'il n'y a pas une ligne particulière de résistance. En plus du fait qu'à mon avis, de mémoire, après quelques années de guerre, les livres de résistance se vendent de plus en plus mal aussi.
Oui,
c'est ça. On commence un petit peu à vouloir passer au...
Paulhan lui-même a écrit une lettre au directeur de la résistance, où déjà on commence un peu à dire ça suffit de faire votre miel là-dessus. D'accord.
Donc je pense que les deux, l'un dans l'autre, les deux faisaient qu'à un moment donné, Lambrix s'est quand même dit, mais on a d'autres choses sous la main, en fait, les gens nous envoient d'autres choses. Moi, j'en lis d'autres. Je pense qu'on commençait peut-être, bon, il était peu connu, mais dans le milieu littéraire, on commençait un tout petit peu à se dire qu'il pouvait lire, un tout petit peu, je pense.
Vous pensez que sa réputation, dès ce moment-là, commence à s'installer assez vite?
Peut-être pas une réputation, au sens où les manuscrits vont lui passer, vont lui arriver dans les mains, mais je pense qu'on connaît un peu Paulhan, en tout cas dans la sphère parisienne, qu'on sait qu'il a, qu'il est un peu entouré et qu'il y a peut-être ce nouveau nom de Lambrix qui entoure Paulhan, qui est chez Minuit, cette maison-là qui est issue de la résistance et que ça circule un petit peu, que peut-être certains auteurs entendent ça. Un des exemples qui est peut-être un petit peu un tout petit peu différent, c'est Beckett qui lui envoie à Lambrix en lui disant, mais bon, bah, je crois qu'il va lui, il lit quand même un petit peu. C'est quand même ce qui revient pendant 30 ans. Lambrix, c'est un éditeur qui lit les textes,
c'est un lecteur avant tout.
C'est un lecteur, c'est ça, qui peut passer qui peut lire dans la journée le manuscrit qu'on lui amène le matin.
C'est alors, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Lindon s'est forgé aussi une réputation en disant, Beckett, c'est moi. Alors, vous racontez, les épisodes sont célèbres, mais c'est quand même Lambrix qui a découvert Beckett. Beckett qui était quand même au bout du rouleau, qui dit presque, si on me refuse, j'arrête. Voilà. C'est quand même Lambrix qui, le premier, repère Beckett. Et ça vous lui rendez justice, c'est lui. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que Lambrix, à un moment ou à un autre, outre le fait que vous avez dit qu'il était tenté par Gallimard, finalement, cette aventure va un peu, alors sinon dérailler, mais... un peu flanché et que Minuit ne va plus être la maison de Lambrix. Qu'est-ce qui se passe pour que ça s'arrête?
Ben, y a ce lien avec Lindon quand même qui, comme beaucoup d'amitié, peut un peu dérailler justement.
Vous pensez que c'était une amitié?
Je pense qu'ils sont un petit, qu'ils sont entendus d'une certaine manière. Ils ont passé plusieurs vacances ensemble. La fille de Georges Lambrix, Nathalie, a des souvenirs quand elle était plus jeune. Je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils sont un petit peu entendus, qu'il y a des moments où que ça dépassait la simple relation de travail, parce qu'il y avait des vacances, il y a des soirs où je pense que on refait le monde dans les bureaux de chez Minuit, et puis on parle plus que de texte et qu'on parle d'autres choses, etc. En tout cas, je peux l'imaginer, ça me paraît pas irréaliste. Moi, bon, j'arrive un peu plus tard, mais pour avoir traîné dans quelques maisons d'édition, il y a aussi ces liens-là amicaux, ou en tout cas de proximité. Peut-être qu'Ami c'est un peu fort, mais de proximité. Et en même temps, Lambrix ayant été un peu plus âgé et là un peu avant Lindon, il sentait un peu aussi que il voulait garder peut-être une certaine prise dans la maison. Et Lindon, lui qui en plus à un moment donné apportait les fonds quand même,
oui, c'est quand même lui qui a sauvé la maison. C'est papa Lindon qui a sauvé la maison quand même.
Donc, et qui s'est dit, moi je sais, ça devient un peu ma maison aussi quand même. Et donc il y a dû avoir un petit conflit entre les deux, de la place, de l'ego. L'histoire de Beckett, elle est anecdotique, mais elle illustre un peu aussi quand même la chose.
En tout cas, Lindon dit, c'est... Et vous le racontez, c'est l'épisode est génial.
Oui, qu'il a raconté.
C'est le début de sa vie d'éditeur. Voilà, hein, quand il rit dans le métro en train de lire, tout d'un coup, sa vie a changé. Alors, Beckett a fait basculer Minuit dans une autre ère, dans l'ère de découverte de la littérature. Et là, à ce moment-là, Lambrix n'est plus... Finalement, se rend peut-être compte qu'il n'a plus sa place chez Minuit. Comment se passe le départ de chez Minuit?
Alors, il sollicite Gallimard plusieurs fois quand même.
Oui, il y a cet aspect-là, quand même.
Il y a quand même le fait que ça commence à... Il commence à y avoir des auteurs chez Minuit qui prennent, que Lambrix a publié. À mon avis, en toile de fond, il y a cette tension qui commence à monter un petit peu avec Lindon. Et de l'autre côté, lui, dans son viseur, il a quand même toujours Gallimard. Donc je pense qu'il doit sentir qu'à un moment donné, c'est peut-être le moment de partir, ou peut-être qu'on va l'attendre, peut-être qu'il y a aussi il y a quelque chose, c'est quand même que chez Gallimard, on attendait qu'il fasse ses preuves pour l'accepter.
Oui, on n'embauche pas quelqu'un si on ne sait pas de quoi il est capable.
Donc, je pense qu'il... Il y a deux hivers. Il y a un premier hiver où il dit, là, c'est bon, je vais partir. Il écrit à Gallimard, il écrit à...
C'est une lettre que vous reproduisez, c'est ça?
Oui, absolument. Ouais. Il écrit en disant, voilà, moi, je suis prêt, j'ai une idée, je veux ma place. Ça se fait pas. Et il réessaye l'année suivante, où apparemment, entre les deux, avec Lindon, ça s'est vraiment effrité. Et là, il dit, c'est bon, j'en peux plus. Paulhan lui demande en plus plusieurs fois, il lui dit, mais est-ce que vous êtes bien sûr? Est-ce que vous êtes bien sûr que ça ne va pas s'arranger? Est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez être chez Gallimard? Nous, ce n'est pas certain non plus. Donc,
oui, Paulhan ne fait pas de promesses. Hein. Voilà. Même si lui imagine que, on ne l'attend pas chez Gallimard.
Oui, c'est ça, on ne l'attend pas. Donc je pense que Paulhan, lui, aimerait l'avoir auprès de lui, mais qui ne décide pas de tout non plus. Et qu'en même temps, il sent qu'il est peut-être un peu jeune aussi, Lambrix, en termes de parcours éditorial. Et donc, c'est ce deuxième hiver-là qui se barre avec fracas, et d'une certaine manière, quand même, de chez Minuit. Il s'en va et...
Mais vous dites un peu vexé qu'on ne le retienne pas, quand même.
Ah oui, oui.
Finalement, pour Lindon, c'est la chance de Lindon. Finalement, la chance de Lindon, c'est d'avoir été le directeur et tout d'un coup, de se retrouver à la tête de la maison d'édition, littérairement aussi.
Et en même temps, je ne sais pas si Lambrix, à ce moment-là, est persuadé que Lindon s'en sortira sans lui, d'une certaine manière aussi.
Oui, parce qu'après, vous le racontez, Lindon régulièrement annonce que la maison va mourir et qu'il n'en peut plus et qu'il faut que Gallimard le rachète. Voilà. Mais en tout cas, Lambrix fait un calcul un peu hasardeux. Puisqu'il ne gagne pas Gallimard, il perd Minuit et il se retrouve le bec dans l'eau, on peut dire nanti d'une famille, d'une famille à nourrir. Et là, il va connaître. Alors, est-ce que c'est peut-être sa traversée du désert? Comment vous l'envisagez cette traversée? Est-ce que ça a été un moment important pour lui de se rendre compte que finalement, il n'était attendu nulle part?
C'est un peu sa traversée du désert. C'est ce que m'ont dit quelques habiles lecteurs, effectivement, sur ce passage-là. C'est vrai que c'est une période où il doit un peu tirer le diable par la queue et que effectivement il a sa famille, il est arrivé, il est à Paris et il a plus de boulot et il se rend compte que s'il n'est pas chez Gallimard, il sait pas quoi faire quand même. Voilà. Et que lire des textes à un moment donné,
ça ne nourrit pas son homme. Voilà.
Exactement.
Alors coup de chance, il va se retrouver embringué. Enfin ça c'est les caprices du destin dans une revue gaulliste. Donc il se retrouve vraiment exactement à faire ce qu'il ne voulait pas faire.
Hein. Voilà.
Mais finalement l'épisode n'est pas si préjudiciable que ça.
Non. Et en plus, ça dure 2 ans, quelque chose comme ça à peu près. Donc c'est pas insurmontable non plus. Mais je pense que là, il se pose un peu des questions. Mais comme tout le monde, comme pourrait le faire par un éditeur, un écrivain, un comédien, n'importe qui à un moment donné de creux se dit, mais est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est bon? Moi, je pense qu'il sent quand même qu'il a un peu de palais, qu'il a du goût, mais sauf que il a un goût qui est quand même assez singulier.
Oui, il arrive à faire éditer Klossowski dans la revue gaulliste, quand même.
Oui.
C'est quand même une vraie performance. Hein, il, malgré tout, ses marottes, ses intérêts, il essaie toujours de les caser, de les placer.
Ouais. C'est vraiment ça, il a des marottes, et en même temps, moi, je lui trouve un petit côté, alors j'ai peut-être y aller un peu fort, d'un certain aspect, je lui trouve un petit côté anarchiste, dans le sens où il a un peu envie, peut-être pas anarchiste, mais un peu autonome, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien l'autonomie, qui aime bien être tranquille et qui aime bien gérer un peu son territoire, quoi.
Et se servir de l'outil qu'on lui donne pour un peu pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut.
C'est
en fait,
ça, hein, c'est voilà. Ça. Et un peu de se contenter, de se dire voilà, moi j'ai ça en tête. Et puis avec ce qu'on me donnera, que ce soit chez Minuit, que soit chez Grasset, que soit en revue, etc. Bon, bah je vais essayer de faire un peu mon truc et de me débrouiller un peu à ma manière. C'est pas quelqu'un qui est quand même un amoureux des règles.
Oui, de ça vous le dites. Hein, c'est pas un homme de pouvoir. Il est pas machiavélique pour dessous. Ouais. Hein, parce qu'on voit somme toute dans ce que vous dessinez un homme sincère, un peu étonné, qui ne sait pas vraiment mener sa barque comme il faut. Mmh. Mais le destin va frapper à sa porte. Alors il frappe une première fois de façon assez surprenante chez les grands rivaux de Gallimard. C'est Bernard Privat, une très grande figure de l'édition, dont on parle malheureusement assez peu, qui a aussi été un très bon auteur. Et qui, alors là, pour le coup, Gaston Gallimard ne vient pas le chercher, mais Bernard Privat, lui, vient le chercher. Et alors, comment se passe un peu ce passage à la rue des Saints-Pères?
Mais ça, c'est la force des rencontres, peut-être, de la rive gauche et des cafés de l'époque où tout le monde se rencontrait et traînait. Ce que j'ai aimé d'ailleurs un peu raconter, évidemment, qu'on fantasme toujours un peu quand on est un jeune étudiant en lettres. C'est que quand même les gens se croisent dans les cafés. Je pense que ça, il faut pas l'oublier. Je disais plutôt que c'était un homme de tablé aussi, Georges Lambrix, c'est aussi un homme de bistrot quand même, c'est un homme d'habitude. Et donc il a pris très vite le trait d'aller traîner dans les cafés, dans les bistrots. Il faisait déjà ça en Belgique et tout ça. Je pense que c'est ce qui s'est joué, c'est qu'il... Moi, je me les représente un peu comme des espèces de scènes de cinéma, c'est-à-dire que je me représente à peu près le boulevard Saint-Germain et les cafés chez Lippe et tout ça. et que Lambrix, il était souvent là et qu'il avait quand même toujours des manuscrits sous la main et qu'il buvait un coup du vin ou du café et qu'il essayait un peu toujours de parler de ce qu'il avait sous la main aux gens qui étaient là, c'est-à-dire aux directeurs de journaux, aux éditeurs, etc. Mais j'ai un super texte de lui, il avait voulu et tout ça. Et donc, à mon avis, Bernard Privat, à un moment donné, a dû se dire, bah, peut-être qu'on a une petite place pour une collection, peut-être après une suite de rendez-vous. D'ailleurs, ça, je n'ai pas le détail, et peut-être de rencontres avinées, on n'en sait rien. Mais
oui, pour faire une petite parenthèse, la somme d'archives dont vous disposez n'est pas extraordinaire. Hein. Non. C'est pas quelqu'un qui a raconté sa vie dans un journal et qui s'était penché.
Oui, oui, oui.
Donc, pour vous, c'est un côté un peu romanesque. Vous comblez les trous aussi un peu.
C'est ça. Voilà. Parce que tu es un peu au début, dès le début, pour la toute première question que vous m'aviez posée.
Ça n'a pas horrifié Monsieur Bessarbanqui que vous laissez parler votre imagination.
Non, du tout. D'accord. Du tout. Il m'a quand même dit, si quoi que vous disiez Arnaud, vous devez le sourcer.
Ah voilà, bon, c'est ça. Donc c'est quand même à l'origine un travail universitaire quand même.
Voilà. Et il me semble que quand je prends certaines libertés, on voit bien que j'essaie de modaliser un petit peu et tout ça.
D'accord.
Mais oui, c'est qu'il a un peu fallu combler les trous, ce qui me semble pas gênant d'ailleurs sur la question de la fiction, du documentaire, du prolongement du documentaire par la fiction. Ça me semble assez fécond d'ailleurs. Okay. Mais bon, c'est une autre question théorique. Mais il me semble que ça peut être très utile, la fiction, pour rendre compte du réel aussi, quand même.
Alors, la fiction, Grasset, c'est le royaume de la fiction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y faire? Il va pas y rester longtemps chez Grasset, curieusement. C'est pas son but, Grasset, de toute manière.
Non.
Et qu'est-ce qu'il va y faire chez Grasset?
Il va fonder une collection qui s'appelle La Galerie. Et je trouve que, d'une, c'est un beau titre, et de deux, vraiment, ça reprend, ça montre vraiment à quel point un éditeur, ou en tout cas un directeur littéraire, est un collectionneur, est un galeriste, et quelqu'un qui aime presque posséder des objets et en même temps les montrer au public.
Les montrer quand même, on dit épater la galerie.
Et oui.
Mais...
et les montrer, et les offrir, etc. Et pas juste un collectionneur au sens, j'ai une pièce chez moi fermée, où je conserve un peu toutes mes bizarreries, mais vraiment, je veux les exposer, je veux que les gens le voient, quitte à ce que ça soit, peut-être pas dans un souci absolument démocratique de que tout le monde les voit, mais que les gens intéressés, et bien, si on a envie de les voir, ça existe, et ils peuvent y aller.
Vous employez même le cabinet de curiosité,
ouais,
parfois, hein, qui se construit aussi, finalement, son propre cabinet à lui.
Oui, parce qu'il y a des choses variées chez Lambrix.
En plus, oui, ça, on en reparlera. Alors, il a quand même le nez creux. Il faut le dire, là, vous dites bien qu'il n'a pas du flair, il a de l'œil, mais il a le nez creux et il va quand même découvrir deux, trois auteurs qui vont marquer un grand coup. Alors, Dominique Fernandez, c'est lui,
ouais.
Et puis le grand coup,
c'est Le Repos du Guerrier.
Voilà, c'est Christiane Rochefort, voilà.
Ouais, qui sera adapté avec film, je crois,
Brigitte Bardot, etc.
Bardot, tout ça.
Donc, il arrive à prouver en même temps, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il peut faire des best-sellers.
C'est le moment où on l'appelle chez Gallimard.
Voilà, somme toute, Gallimard n'avait pas besoin d'un directeur élitiste, mais voulait quelqu'un qui soit capable de faire des zéros. Voilà. Alors, finalement, il se passe ce qui est son grand fantasme, c'est qu'il est appelé par Gaston.
C'est ça. Mais peut-être d'ailleurs, un peu comme on le disait tout à l'heure pour Minuit, Gallimard a quand même en tête de récupérer des auteurs bankable, comme on dit aujourd'hui. Mm-hmm. Donc évidemment que c'est un petit peu nécessaire. Et... encore une fois, nulle trace, mais quand même on peut le supposer, c'est que c'est après qu'il ait fait quelques succès qu'on le recrute à ce moment-là, qu'on lui donne une fonction de directeur littéraire qui est quand même pas très précise.
C'est ça qui est assez étonnant. Vous dites, bon, en fait, on débauche quelqu'un, mais on sait pas trop quoi lui faire faire, en fait. Hein, voilà.
C'est vrai. Bon, je pense en plus que Paulhan, à un moment donné, a dit, bon, là, c'est bon, on le prend quand même, Lambrix, ça va bien, quoi, maintenant. Mais effectivement, on lui dit, bon, le contrat est devenu célèbre pour ceux qui ça intéresse, mais... qui consacre à la littérature le meilleur de son temps, donc il n'a pas marqué 39 heures par semaine. Et je pense qu'on lui dit, c'est de mettre un peu au service de Gallimard son œil, en fait, simplement. Son goût, et qu'on lui dise, voilà, il y a des livres qui vont arriver. Parce qu'il n'a pas la collection tout de suite, en plus.
Il n'a pas de collection, hein, c'est ça. Il est un peu chasseur, un peu autonome.
C'est ça.
On lui confie ça.
Mais l'œil du chasseur.
Il n'est pas au comité de lecture. Hein. Moi, j'ai découvert avec vous qu'il avait été très tardivement au comité de lecture, ce qui paraît incroyable. Hein, il n'est pas embauché là-dessus. Et puis, en plus, ça n'a pas l'air de lui plaire beaucoup, le comité de lecture, puisque bon, il n'a pas envie de lire des manuscrits qu'on lui impose. Voilà. Et donc, chez Gallimard, il va en quelque sorte faire son trou, discrètement. Alors, quelle est sa grande idée à Lambrix, finalement, pour s'imposer chez Gallimard?
Mais sa grande idée, c'est déjà ce qu'il disait, en fait, quand il voulait partir de chez Minuit, et qu'il a redit régulièrement à Gallimard, à Paulhan, c'est que lui, il veut une revue, et qu'il veut une collection, et il veut une revue avec. Parce qu'il a grandi dans les revues, et que donc, pour lui, c'est un peu là-dedans que ça se prépare, la littérature aussi, qu'il y a une espèce de marmite, quoi. Il y a un creuset de la littérature, de la recherche, etc., qui se fait dans la revue, dans des, dans des formats courts, dans des formats de... C'est ça, de recherche, je pense. Alors, c'était pas un terme qu'il aimait, la littérature de recherche, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose...
Mais lui, c'est un chercheur. Il n'aime pas la littérature de recherche, mais c'est un chercheur.
Quand même. Un petit peu, quand même. Vous parliez de chasseur, il a le Clésio dit ça de lui, l'œil du chasseur aussi, évidemment, quoi. Toujours un petit peu en alerte, comme ça. Et je pense que pour lui, c'était indissociable, les deux. Aussi, parce qu'il avait grandi avec la NRF. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, où il y a des courts textes. Et d'ailleurs... Moi, il me semble qu'il a raison, parce que c'est ce qui s'est même fait avec la NRF et Gallimard. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la revue, et ensuite on s'est dit bah, il nous faut une maison d'édition pour publier les plus grands textes, et ensuite il nous faut un théâtre avec le Vieux Colombier. Mais passons. Et donc il arrive avec cette idée-là en disant voilà, moi je veux ça. Je veux... Donc il fait une petite liste, il est très précis, il envoie ça, la lettre est reproduite. Il fait des tirets, on fera ça, la collection représente à ça. Je veux être très libre, publier de tout, et avoir une revue, avoir un endroit où réunir les auteurs et que voilà, un lecteur puisse feuilleter, passer de l'un à l'autre. Et encore une fois, on retrouve cette image, enfin, d'une certaine manière, de l'amitié, que c'est quand même un truc où on va se faire se mélanger des gens et des personnalités. Lui, il adorait préparer des sommaires aussi. Ses filles m'ont dit ça. Il aimait bien le dimanche, il y allait.
Ça, il partait à dimanche à 17h et voilà, c'était.
Il préparait ses petits Lego, quoi, quasiment. Donc c'est un peu ce qui l'amène. Au début, il a une collection qui s'appelle Jeune Prose, qui a été reprise de Jeune Poésie, qui était une collection qu'avait Pollan. Chez Minuit, il avait aussi une petite collection qu'il avait un peu copiée à celle de Pollan chez Gallimard. Donc vraiment, il est dans ses traces.
Oui, Gallimard, Pollan, c'était Métamorphose, la belle collection Métamorphose, et lui, ouais. Il avait fait le pendant.
Ouais.
Donc Jeune Prose, c'est aussi pareil, c'est un petit laboratoire, mais un laboratoire qui semble le frustrer. C'est-à-dire, d'ailleurs, on lui confie les petits textes de débutant,
ouais.
Et c'est pas, il est pas, il piaffe, texte, ouais. Il piaffe un peu quand même. Hein, voilà. Alors comment il va ?
Il y a quelques-uns de ses auteurs de chez Minuit qui ont envie de le suivre aussi.
Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous le savez ou pas ? Comment il se débrouille pour finalement réussir à obtenir le Graal quand même ? On lui confie une collection quand même chez Gallimard. À une époque, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir s'il y avait beaucoup de collections à l'époque, mais en littérature, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup, me semble-t-il. Enfin, elles disparaissaient, elles apparaissaient, etc. Mais on lui confie une collection.
Mais moi, il me semble qu'il y en avait. Bon, il y en avait quelques. Je ne saurais pas dire combien il y en avait à l'époque. Il me semble que le risque, c'était aussi qu'il se chevauche un peu avec la collection de Pollan, qui elle-même était déjà un peu une collection un petit peu oblique comme ça. Mm-hmm. Pourquoi on lui donne
Enfin, ça veut dire qu'il a été quand même persuasif pour dire que.
C'est que il est. Oui. À mon avis, il s'est quand même trouvé. Je pense que ça relie un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais bon, déjà, il a été assez insistant. Je pense qu'il y avait des choses qui se règlent de manière plus officieuse quand les bureaux sont fermés, etc. Et que surtout, à un moment donné, il est arrivé quasiment avec un catalogue aussi. Qu'il avait quand même une petite. Après ce Jeune Prose où c'était des primo-auteurs, primo-romanciers, etc., des petits essais comme ça, moi, je pense qu'il s'était quand même constitué deux, trois noms, pas immensément célèbres, mais quelques noms quand même. Avec lequel il pouvait dire bon là je commence pour proposer une collection je peux avoir 3, 5, 8 ouvrages à venir et pas juste vouloir faire une collection et ensuite trouver des noms.
Pas du coup par coup hein. Lui en fait son idée à lui ce n'est pas du coup par coup c'est pas un éditeur de coup c'est un éditeur de long cours.
Ouais.
Alors il appelle ça le chemin. Pourquoi est-ce que vous avez l'explication mais pourquoi ce nom de le chemin qui est très ambitieux aussi et en même temps très modeste qu'est-ce qui lui fait choisir ce intitulé.
Alors, il y a la phrase célèbre qui a donné le titre au livre,
mais qui est postérieure, hein, somme toute, c'est une phrase qu'il dit à Gérard Massé.
C'est ce que j'allais dire, que Gérard Massé lui pose en lui demandant pourquoi le chemin, et Lambrix répond parce que le chemin continue. Je pense qu'il y a 1000 explications à ce chemin, j'en dis quelques mots. Il y a évidemment l'image de la flânerie, il y a toutes ces choses autour de ce qui est important finalement, c'est le chemin, c'est pas la c'est pas l'arrivée, c'est le trajet, etc. La
phrase de Kafka, oui, d'accord.
Et,
oui.
Ces odyssées, quoi. Et parce que la littérature pour lui est un chemin qu'elle n'est jamais terminée aussi, donc j'ai l'impression un peu de dire des banalités sur l'imagerie du chemin, du cheminement, de cheminer ensemble et tout ça. Mais il me semble quand même que
c'est peut-être pas plus compliqué que ça. En fait.
C'est peut-être, je sais pas, c'est plus. Alors il pourrait raffiner, le dire peut-être mieux que moi, Lambrix.
Oui, mais justement, il le fait pas. C'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de coquetterie chez lui.
Non. Et justement, et souvent, c'est ce qu'il dit un peu. Il dit, mais. Ce que vous avez à savoir sur la collection sont les livres qui le disent. Lisez les livres et vous connaîtrez la collection. Dis-moi, à la rigueur, il peut un petit peu faire de verbiage autour. Il l'a fait ponctuellement, mais assez peu. Il a peu fait de grandes interviews. Il en a fait quelques-unes. Mais il dit, voilà, moi, j'accompagne un peu. Je mets à disposition. Mais encore une fois, c'était quelqu'un de laconique et qui laissait presque... Qui mettait les choses en avant et qui se retirait en disant, voilà, maintenant, vous les regardez, vous les lisez, vous échangez, vous cheminez avec... Il y a la marche aussi, évidemment, dans cette idée de chemin. Il y a le fait de marcher sans trop savoir vers où, de la randonnée aussi, de quelque chose comme ça, de... que parfois ça peut aussi être... ça peut être pentu, ça peut monter, ça peut descendre. Que c'est varié, qu'un chemin, c'est varié, quoi.
D'accord. Enfin, en tout cas, vous trouvez, vous, a posteriori, l'image lui convient parfaitement, que l'inspiration qu'il a eue en choisissant ce nom était exactement la façon dont il concevait son métier. On devient éditeur en cheminant.
Oui, je pense, ouais. Ouais.
C'est ça, ouais. Alors, quel type d'éditeur est-il? On connaît plein de genres d'éditeurs. On parlait de Bernard Privat. Chez Grasset, il y aura Yves Berger. Enfin, on parlait de Fasquelle. Il y a plein de typologies d'éditeurs. Il y a Paulhan, alors qui est le grand modèle. Lui, dans quelle catégorie on pourrait le ranger? C'est quoi son mode de fonctionnement? Comment il travaille?
Alors, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Je disais tout à l'heure que moi, je m'étais un peu intéressé à l'histoire littéraire avant de commencer ce mémoire, à l'édition. Et justement, cette question des relations, en tout cas, entre un auteur et un éditeur, mais je répondrai après sur la question de l'éditeur, elle m'intéressait parce que j'avais rencontré quelques auteurs pour des travaux ou à des rencontres. Il y avait souvent des réponses différentes qui arrivaient. On me disait, soit il y en avait qui avaient un rapport extrêmement filial avec leur auteur, leur éditeur, ils l'appelaient en pleurant, bourré, machin, j'arrive pas à écrire, enfin vraiment cette imagerie un peu là, quoi, avec laquelle je me sentais pas forcément en communion, quoi. Et d'autres qui me disaient, mais moi, j'ai un rapport marxiste à mon éditeur, je lui donne un livre et c'est tout, et c'est pas mon ami, et c'est mon boss, quoi. Et donc ça m'intriguait. Je sentais qu'il y avait plusieurs liens entre les auteurs et les éditeurs, et donc évidemment il y avait plusieurs types d'éditeurs. Eric Orsena m'a dit, hein, quand vous êtes éditeur, soit vous avez une suite de tête-à-tête, soit vous avez une famille. Lambrix, me semble-t-il, était quand même plutôt de la catégorie de ceux qui avaient une famille, ou en tout cas quelque chose qui s'y adosse. C'était quand même un éditeur, ce qu'il faut dire, qui était très peu interventionniste, voire pas du tout.
Oui, ça c'est étonnant. C'est étonnant, hein.
Ça c'est quand même impressionnant, parce que il y en a des éditeurs, pas tous, il y en a, mais qui disent, mais là il faut reprendre la page 12 du chapitre 4, tes verbes, ton passé, enfin vraiment.
Édite avec un crayon, et voilà.
Ça, il y a un côté un peu professoral et tout qui est pas gênant. D'ailleurs, il y a des écrivains qui ont besoin d'être accompagnés, ma foi. Mais lui, pas du tout. C'est-à-dire qu'il lisait, et le travail de l'écrivain, c'est le travail de l'écrivain, c'est pas le travail de l'éditeur. Donc il y a sa phrase célèbre, enfin son expression célèbre. Qui disait voilà, c'était pas tant, ça veut tout dire.
Oui, donc c'est quelqu'un qui reçoit, qui n'est pas là pour, qui a une vision en somme toute du texte un peu presque mystique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous est confié, vous n'allez pas comme quand on reçoit une peinture, on va pas se mettre à modifier le paysage. Il a cette vision là, voilà, et jusqu'au bout ça sera comme ça.
Hein, mais c'est exactement, et c'est, tout à l'heure je parlais de l'image de la galerie, vous parlez de la peinture, il y a de ça aussi. Un galeriste, il ne demande pas à son peintre de changer le tableau quand il arrive, en lui disant mais mets du bleu dans l'angle ou quelque chose comme ça. Soit c'est épatant, soit ça va pas. Et après, ben, l'écrivain, Paulhan lui dit très tôt, il est toujours seul face à son texte, en fait. Et c'est un peu lui qui... après, ça c'est un peu la littérature, comment s'écrit la littérature et tout ça, quoi. Et après, chacun a des conceptions un peu différentes, mais il me semble quand même que la littérature, c'est une singularité, que c'est vraiment quelque chose qui est propre. Et si un éditeur se met à dire non, mais moi, tous mes textes, je veux qu'ils soient au passé simple, la singularité, elle devient un peu s'homogénéise.
C'est sa particularité que lui, il refuse de faire école. Hein. Alors, il y a peut-être aussi cette idée que en parallèle, il y a une sorte de mouvement de fond qui fait que le nouveau roman s'impose. Lui, c'est quand même lui qui a découvert Butor, me semble-t-il, hein, qui est quand même le premier auteur de ce qui est supposé être le nouveau roman à s'imposer. Mais lui, il est contre l'école. Et les écoles, ça lui paraît absolument insupportable et même suspect.
Oui. Ce que je disais plus tôt, c'est pas un grand fanat de règles. Assez vite, les bancs de l'école, ils s'en est émancipés, en tout cas. C'est pour ça que je disais ça. Bon, c'est peut-être un peu pour la formule, mais qu'il y a quand même un petit côté un peu anarche chez lui, quoi. Je le vois a posteriori, à rebours, et je me trompe peut-être, et c'est peut-être un peu parce que... Voilà. Mais oui, il y a quelque chose quand même pour lui, pour ce qui est de ce type de loi, de règles un peu comme ça, qui lui semble...
Parce que par exemple, le nouveau roman, il le dit à demi-mot, mais c'est, pour lui, c'est une supercherie, c'est une invention, c'est ce malin de Robbe-Grillet qui a créé un petit mouvement sur lequel Jérôme Lindon, très habilement, a su mettre un ensemble. Il y a même la photo avec Nathalie Sarraute, on ne sait pas ce qu'elle fait là, parce qu'elle n'a jamais sorti un livre vraiment de chez Minuit, à part une réédition d'un livre d'avant-guerre. Mais que lui, il veut pas situer là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a une forme d'honnêteté profonde chez lui. Qui, un éditeur et honnête, c'est un tu as toujours un côté bizarre, on dirait que c'est pas du tout dans le même paradigme, mais qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Est-ce que, et ça vous en parlez, c'est intéressant, il se met à être éditeur dans les années 50, au début des années 50, et vous employez la formule, c'est quand le livre commence, ça mue en objet de production. C'est-à-dire 1953, c'est Philippe Aki qui crée le livre de poche, et tout d'un coup, on va produire en série des grandes quantités. Lui, il n'est pas du tout là-dedans, oui. Hein, il est presque dans le refus. Mmh. Est-ce que c'est ça?
Oui, je pense. Et d'ailleurs, les livres du chemin se vendaient pas tant que ça, et ça lui importait peu. Et d'autant plus que, pour revenir sur un mot sur le nouveau roman, il y a quelque chose qui fige beaucoup aussi dans les mouvements. Ils sont très vite adossés à une époque, enregistrés. Je crois qu'il parle à un moment donné de la lave qui se refroidit, quoi. Ouais. Qu'il y a quelque chose comme ça dans les mouvements, dans le fait de les nommer, et qu'en plus ça catégorise beaucoup. En catégorisant, en homogénéisant, du coup, on retire les singularités, on essentialise, etc. Je pense que c'était beaucoup de choses qui le gênaient, à mon avis. Et même les auteurs dits du nouveau roman ne s'y sentaient pas nécessairement affiliés, parce qu'ils disaient, mais quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre Beckett, entre Butor, justement entre...
Oui, Butor qui ne supportait pas ça.
Voilà, ils disaient, mais ouais. Quel lien j'ai avec ça? J'ai de la sympathie, j'aime les lire, mais on voit bien qu'on ne fait pas la même chose. Et donc, c'était un peu confus, à mon avis, cette étiquette, comme beaucoup d'étiquettes, d'ailleurs, qui est réductrice, finalement. Donc, c'est peut-être pour ça que ça le gênait beaucoup.
Alors,
et la deuxième question, c'était éditeur honnête, c'est ça?
Oui. Enfin, là, est-ce qu'il y a une forme de pureté, en fait, chez Lambrix?
Et
oui, ou est-ce que
voilà, et que ça se vendait pas, et que, ouais. Et que c'était pas très commercial, que il y avait le livre qui s'était transformé. Oui. Alors ça, je pense, que c'est un mouvement de fond que je pense qu'on est d'accord que c'est pas l'édition qui a promu l'arrivée de ce type de libéralisme. Mais
face à l'accompagner quand même.
Évidemment. Ouais. Elle l'a pris. Elle l'a suivi. Je pense que Lambrix, c'est une de ses qualités, je pense. Et c'est aussi pour ça qu'il voulait être chez Gallimard. C'était pour être tranquille et se dire, mais peu importe si ça se vend, il faut que ces livres existent.
Ouais. Et c'est ce qui est paradoxal, parce qu'il est chez Gallimard, qui est quand même une maison où le business est entouré de bons sentiments, etc. Mais c'est du business. Gaston Gallimard est un commerçant. Il y a ce passage assez étonnant où Claude Gallimard, qui a pris le relais de Gaston, lui met un petit papier sur le bureau en lui disant si on enlève ces trois auteurs-là, la maison est déficitaire. Voilà. Face à ce genre de choses, il est un peu démuni quand même, lui. Il n'a pas réellement d'arguments.
Non, et surtout qu'en plus, son argument, c'est que c'est la littérature, et la littérature, on peut tout. Donc bon, ça fait un peu formule aussi, mais c'est un peu son argument. Le fait d'être laconique fait qu'en plus, il ne monologue pas pendant des heures pour convaincre.
Il ne se justifie pas, en tout cas.
Il se justifie assez peu. Après, Gallimard a quand même toujours le soin de préserver quelques auteurs prestigieux qui ne se vendent pas, encore aujourd'hui.
Oui, enfin là, on va... Je demande à voir. Mais en tout cas, c'était une époque où... Et Lambrix dit ça, il faut accompagner un auteur. Un auteur, c'est... On peut faire un premier roman, il faut donner du temps à un auteur. Lui, il a la vision de l'auteur comme quelqu'un qui bâtit une œuvre, et non pas comme, peut-être le fait un peu grasser, qui est un livre doit marcher. Cet aspect-là.
Et comme on revient à cette image de la galerie, évidemment, à un moment donné, c'est ce qu'il disait. Il dit, mais moi, un auteur, je prends toutes ses œuvres. Et je ramassais, il me disait une fois, il voulait faire un travail, je crois que c'était sur Rimbaud, et je crois que c'était Tadier qui lui proposait quelque chose pour sa collection, à l'époque où Lambrix était vivant avec Le Chemin. Et il lui a dit, mais non, moi, j'ai commencé chez Lambrix, je publie tout chez Lambrix, en fait. C'est comme ça.
Il crée ça chez ses auteurs,
cette espèce-là. Une fidélité. C'est pour ça que l'amitié, j'y reviens un petit peu, mais je pense qu'il lui-même suscitait cette envie de fidélité et d'amitié avec lui. Il y en a deux ou trois qui sont partis parce qu'il y a eu quelques brouilles, évidemment. Mais globalement, quand même, de ce qu'on m'en a dit, de ce que j'en ai lu, il y avait cette fidélité chez lui. Donc j'imagine une certaine honnêteté. Et encore une fois, comme on le disait pour le galeriste, je pense qu'il y avait aussi une certaine... Quand on est jeune écrivain et qu'un éditeur comme ça vous prend tout entier d'une certaine manière et prend toute votre œuvre et vous accepte, vous savez que vous êtes accepté à jamais.
Oui.
Et donc que ça vous lie un peu à lui d'une certaine manière.
C'est rassurant et stimulant.
Ouais. Et en même temps, sans qu'il prenne trop de place, en disant mais je veux tes manuscrits, maintenant que tu as signé chez moi, etc., va falloir pondre et tout ça, qui n'était pas du tout son caractère, du tout. Et qu'en plus, que ça se vende mieux, que ça se vende moins, que ça soit un succès ou que ça ne le soit pas, mais il vous gardait quand même. Et Gallimard, moi, j'ai quand même un peu foi dans le fait que Claude Gallimard ou Gaston ou Paulhan, même avec des choses qui ne vendent pas, sont attachés à les conserver quand même, cette maison dans la maison.
Oui,
c'est un peu la NRF aussi. Bon, bah, ça me coûte un peu d'argent, mais continuez.
Ils l'ont même théorisé, ça, hein, d'une manière. Voilà. Hein, c'était, voilà, c'est le symbolique qui doit permettre de faire le reste. Voilà. Alors, la chance ou le génie de Lanry, c'est quand même de faire des succès, de sacrés succès. Alors qu'il va quand même découvrir des gens. Alors, parlez-nous de ces grandes découvertes.
Il y a des grandes découvertes qui, d'ailleurs, comme Minuit récupérait, Gallimard récupérait celle de Minuit, la Blanche récupérait celle du chemin, généralement. Mmh. Donc celle qui est célèbre, c'est évidemment celle de Leclésio avec le procès verbal en 62, qui lui-même, pour revenir au nouveau roman, dans la lettre se dit, mais il paraît que vous êtes l'éditeur du nouveau roman, est-ce que j'ai quand même le droit de vous l'envoyer? Donc Lambrix, alors pas du tout, envoyez-moi le reste tout de suite.
Il fait une chose assez incroyable, hein, qui est remarquée par la presse là, quand on parle de votre livre, c'est que Leclésio lui écrit une lettre pour lui demander s'il peut lui envoyer un manuscrit, ce qui paraît insensé, et il lui répond.
Il répond immédiatement.
Alors vous,
et il lit le manuscrit.
Oui, et il lit le manuscrit, mais comme si, est-ce que c'est ce qu'on appelle la vista ou, enfin, est-ce que... Donc, c'est-à-dire que Lambrix a cette générosité de dire à un jeune gamin, à un jeune type qui habite à Nice, oui, envoyez-moi votre manuscrit. Enfin,
Moi, je pense que... On parlait tout à l'heure un peu du fait qu'il avait essayé d'écrire. Moi, je pense qu'il a senti assez vite que sa puissance n'était pas dans l'écriture, mais qu'en revanche, il avait une puissance de lecteur. Et que vraiment, c'était... Je pense qu'il faisait que ça. Il faisait que lire, ses filles le disent, ses proches le disent et tout ça. Il lisait au travail, il lisait en vacances... Il avait le même quotidien en permanence. C'est quelqu'un qui voulait lire tout le temps, presque de manière un peu pathologique, on pourrait dire. Et donc, je pense que quand il reçoit ça, déjà qu'on l'associe au nouveau roman, il a peut-être envie de faire un coup aussi en disant non, moi, je ne veux pas de cette étiquette. Donc, en miroir, je vais vous lire beaucoup plus que vous allez le penser maintenant que vous me dites ça. J'en sais rien, mais ça me semble crédible. Et ensuite, oui, il reçoit ça, il le lit, il me semble, dans la journée. Et les anecdotes comme ça, il y en a d'autres. La Clavetine, pareil, lui envoie au début un manuscrit qu'il n'a pas fini de taper à la machine à écrire parce qu'il l'a écrit à la main. Et Lambrix lui dit, mais elle est où la suite? Et donc, la Clavetine se dit, j'ai dû tout taper dans la nuit parce que je ne l'avais pas, etc. Donc, quand même, pour prouver que c'était quand même... C'est ça. Moi, je pense que c'est un... Ça, c'est très...
Il y a une capacité, majeure, voilà, une capacité à renifler la personne qui possède une œuvre.
Oui, je pense, oui.
Alors, il découvre Leclésio. Butor, il prolonge, il accueille, il fait de Gallimard la maison de Butor. Et puis, l'air de rien, il a des concours. Et vous parlez à un moment où c'est un éditeur important de la place de Paris, finalement. Il a réussi à imposer et à être incontournable dans le monde des éditeurs. Comment ça se passe pour lui, cet épisode-là? Est-ce que c'est tout d'un coup, ça y est, je suis arrivé... au sommet de ma carrière, est-ce qu'il y a une forme d'arrogance chez lui ou pas du tout?
Je pense que c'est son grand moment de joie, de plaisir, qui est aussi suivi par peut-être parfois les intensités, les déconvenues avec leurs intensités aussi de ces moments-là. Parce que c'est ça, c'est son grand moment, il faut le dire, il a 10 ans où il est... rayonnant d'une certaine manière, il fait aller et venir, il remplace presque Paulhan d'une certaine manière dans sa place dans le milieu parisien. Donc, encore une fois, il était peu connu en règle générale, Lanry, mais dans le milieu parisien, dans ces années-là, il l'était tout de même, dans vraiment une certaine mesure. Et évidemment, il réussit et il a des succès.
Il a deux concours, je crois, hein, Jacques Borel, Pascal Lainé. La Dentelière, il a le Renaudot avec le Clésio.
Puis il y en a peut-être d'autres que j'oublie.
Enfin, il est bankable, comme vous dites. Il se met à gagner de l'argent à sa maison d'édition.
Et je pense que là, il en jouit un petit peu aussi, parce que c'est quand même le moment qu'il a attendu pendant 40-50 ans, presque. Donc, il a un peu la folie des grandeurs, à mon avis, ce que j'essaie de dire. Et en même temps, c'est assez savoureux à voir, à sentir aussi, quoi, qu'il s'éclate.
Oui, vous le dites même un peu trop, peut-être.
Un peu trop, voilà, c'est ça ce que je veux dire par ses intensités, peut-être. C'est que l'histoire avec sa femme, il y a l'histoire où il boit beaucoup, où il fait un peu beaucoup la fête et tout ça.
Avec des gens plus jeunes que lui, d'ailleurs. Hein,
avec des jeunes écrivains.
Des jeunes écrivains. Alors, justement, son rapport avec les autres, je veux dire. Alors, il est en même temps, curieusement, il n'a jamais été identifié comme quelqu'un qui serait hyper novateur, hyper avant-gardiste, curieusement, même s'il est dans l'avant-garde. Et il a l'air assez fasciné par les avant-gardes, notamment il repère Solers, mais Solers se retrouve au seuil. Et il a l'air fasciné par tel quel. Alors, quelle est la nature de ses rapports avec ces jeunes tigres, qui, eux, sont très idéologisés, justement
Alors, il les fréquente un peu, mais pas des années non plus, quand même. Mais oui, évidemment, il y a la rive gauche et il y a ces cafés qui se croisent. là, moi, il me semble ce qui l'attire, c'est peut-être la vitalité qu'il y avait chez Telquel, au sens assez fort, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des pulsions de vie théorique et tout ça chez Telquel, idéologique, mais en tout cas, il y avait une forme d'énergie et de puissance. Et je pense que moi, c'est ça qui l'attirait. Quand je dis qu'il est lecteur, qu'il lit très vite, qu'il prend celui de Leclésio, qu'il prend celui de la Claftine, etc., qu'il a une soif de lire aussi. Il y a une soif de vie aussi, comme ça, un peu sous toutes ses formes. Et que quand il voit des jeunes qui ont peut-être un peu plus l'énergie des débuts que des auteurs un peu plus installés qu'il admire et avec qui il est ami aussi, mais c'est un autre type de relation, je veux dire, c'est un autre type de puissance en tout cas. Je pense que moi, c'est ça aussi qui lui plaît beaucoup. C'est de. Comme un. Je sais pas moi, un comédien ou un réalisateur un peu installé se dit toujours, mais c'est génial, là j'ai trouvé une perle de 17 ans, ça va exploser quoi. Mm-hmm. Vous voyez, s'il y a quelque chose de. Du plaisir de voir quelque chose en train d'arriver, en train de se construire, qui va et qui est en train d'advenir d'une certaine manière, parce que ses amis écrivains, avec qui il était proche depuis 10 ou 20 ans, qu'il admirait sans aucun doute, je pense, ben voilà, il connaissait leur œuvre, il continuait de les lire, etc. Mais quand il y a quelque chose de neuf, c'est ce qu'on dit un peu de lui, quoi. Il aimait le jamais vu et le jamais lu.
Oui.
Et quoi de mieux que une jeune personne qu'il a jamais rencontrée pour lui filer un texte qui va lui donner un peu l'éclaboussement du langage, quoi, comme dit Barthes, un peu cette folie de la jeunesse, d'une certaine manière, comme on peut. C'est ça, quand un premier manuscrit, Barthes dit un peu ça, quoi, dans un de ses séminaires. Il dit ils sont pas toujours très bons, mais ils sont plein de. Un premier manuscrit est plein de pulsions de désir. Il est plein de la pulsion de désir d'écrire. Je pense que. Il devait y être un peu sensible.
Alors lui qui n'a pas fait œuvre, on va un peu en parler, qui a fait peu œuvre, finalement, est-ce que son œuvre, c'est pas d'avoir été l'hyper lecteur, hyper sensitif, malgré, par-dessus tout ?
Si, bien sûr, bien sûr. Il a fait des petits livres que j'ai lus, qui sont d'ailleurs, que moi je trouve très beaux, très clairs.
Pas un corpus énorme. Hein.
Non.
Alors, Lambrix écrivain, qu'est-ce qu'il en reste de Lambrix écrivain ?
Il reste peu de choses avec des livres qui sont durs à trouver.
Il y en a encore un imaginaire, je crois que les fines attaches
doivent être
disponibles depuis 40 ans.
C'est un des seuls. Oui. Parce qu'il y en a une partie qui ont paru à l'époque aux éditions de
La Différence.
Chez sa nièce, Colette Lambrix, maison qui n'a pas pu continuer, qui a repris forme sous le nom des éditions du Canoë, mais qui ne publie pas nécessairement ces livres-là, qu'elle avait édité dans les années 90-2000. C'est un peu comme ça que je les ai trouvés. Peu édités. Mais qui lui ressemble un peu, c'est des livres très courts, quelques textes de maximes, d'aphorismes, de choses comme ça, quoi, de formules aussi, qu'il a peut-être dites au cours d'un repas d'ailleurs.
Mais
un peu comme Poland quand même.
Oui. Un peu comme Poland. Alors peut-être moins. Alors
moins théorique.
Peut-être. Oui, moins théorique peut-être. Mais est-ce qu'il y a une forme de maniérisme chez lui, qui est cette forme d'épure ? Le fait d'avoir été éditeur a contraint son travail d'écrivain, comme si l'écrivain ne faisait que se glisser dans les interstices que laissait le travail titanesque de lecture.
C'est intéressant. Je ne sais pas si ça l'a contraint. Moi, je pense qu'il était déjà contraint et qu'il est devenu éditeur parce qu'il a senti que l'écriture n'était pas pour lui, comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs. Comme beaucoup d'éditeurs. Il a essayé quand même tôt d'écrire des volumes un peu plus importants et très vite, je pense que. En fait, le désir d'écrire arrive toujours par le plaisir de lire. C'est parce qu'on lit qu'on veut écrire. C'est parce que j'ai lu que j'écris. Mais ça n'est pas nécessairement parce qu'on veut écrire et qu'on a lu qu'on fait littérature.
Ouais.
Et je pense que lui l'a senti assez vite. Il a senti que ce plaisir de lire en première instance déclenchait chez lui un désir d'écrire, mais que ce désir d'écrire n'était pas nécessairement une des formes de sa puissance. Ouais. Et qu'il était bien meilleur en lecteur, en découvreur, à passer peut-être des heures entières à lire et à écouter, d'où le fait qu'il était peut-être silencieux. On écoute un peu aussi une voix quand on la lit. Et que je suis pas sûr que ce soit son œuvre, enfin le fait qu'il soit éditeur qui l'a empêché d'écrire, mais plus qu'il est devenu éditeur, pas par défaut, mais par force, justement.
Oui, parce que en même temps que lui, il y avait des éditeurs qui faisaient œuvre littéraire, ou même il y a toujours eu un Jean Cayrol, immense éditeur, forgé une œuvre compliquée. Il y en a eu. Je ne reviendrai pas sur les noms, mais alors, donc un écrivain qui écrit peu, un éditeur qui lit beaucoup, qui ne laisse pas de notes de lecture, finalement. C'est quelqu'un qui... Il n'y a pas d'archives. Hein. Ah, on n'avait pas été noyé sous les archives.
Non, assez peu. Alors, il y a une... Moi, je n'ai pas eu accès tant que ça à des archives Gallimard. C'était principalement à l'IMEC. Ouais. Peut-être que Gallimard avait quelques... Des éléments de notes de lecture, mais assez peu, il me semble.
Oui, c'est pas quelqu'un qui a produit, voilà. Surproduit, etc.
La Malbon Cerisier me disait que non, il n'y avait pas.
Alors, revenons à un aspect important qui est la revue. Malgré tout, vous l'avez dit, il a été formé par les revues. Il fait partie d'une génération pour qui la revue est la manière d'arriver en littérature et la manière aussi de parvenir. La fameuse NRF, la NRF qui est interdite, qui est reprise, etc. Il crée les Cahiers du Chemin. Donc il a finalement sa revue, qui s'appelle Les Cahiers du Chemin. Comment il envisage cette revue par rapport au fait qu'il y a déjà une revue chez Gallimard? Comment il arrive à imposer à Gaston Gallimard, à Gaston et Claude Gallimard, qui ne sont pas près de leur sou, mais un peu, le fait de faire une deuxième revue?
Oui, cette deuxième revue qui tiendra 10 ans, de 67 à 77, mais qui d'ailleurs se termine parce qu'elle est absorbée. Alors au début, comment est-ce qu'il y arrive? Bon, c'est déjà dans son projet dont on parlait tout à l'heure, d'avoir une revue nécessairement adossée à la collection pour laisser mariner un peu ce qui fera roman peut-être ensuite ou qui fera texte plus long dans sa collection.
Vous pensez que c'est une antichambre, vous? Moi, je le vois moins comme ça, parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'auteurs, de textes d'auteurs déjà confirmés.
Oui. Ou en tout cas, qu'en partie, ça en est une, ou que c'est un réceptacle de textes qui auraient peut-être moins sa place dans la revue, peut-être parce que pas assez long, parce que trop essayistique, ou en tout cas une zone un peu de... Une zone de tir un petit peu à essayer des choses, zone d'essai quand même un peu la revue. On retrouve quand même des choses chez Guyotat qui sont publiées un peu sous les mêmes formes. On retrouve quand même des textes en revue où on voit bien que c'est les prémices de textes qui ensuite feront livre.
Oui, parce que le premier numéro des Cahiers du Chemin est une sorte de profession de foi quand même.
Ouais, quand même.
Il y va fort.
Il est très fort.
Mais est-ce que ça constitue une sorte d'arme pour lui, posséder une revue? Est-ce que c'est pas, alors que vous dites que c'est pas un homme de pouvoir, est-ce qu'il affirme pas quelque chose en disant chez Gallimard, j'ai quand même ma revue, c'est-à-dire j'ai presque mon cheptel, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça malgré tout?
Si. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure, mais en face, il y a Tel Quel aussi.
Oui.
Donc évidemment, c'est important d'avoir sa propre revue, d'être lu, de circuler un petit peu au-delà peut-être des chemins habituels des librairies et des livres. Donc évidemment que c'est une manière aussi de s'installer. Alors, comment ça a été perçu par les Gallimard? Moi, je pense qu'au début, ils n'avaient pas du tout idée que ça prendrait cette dimension-là. Parce qu'en fait, les cahiers se transforment, si j'ose dire, à mi-chemin, changent de pagination, changent de taille, etc., et deviennent de plus en plus importants.
Oui.
Au début, c'était un petit livre. Donc, à mon avis,
avec un format, jeune prose.
Petit format qui rentre dans la poche.
C'était des cahiers d'une collection, en plus.
Voilà. Donc il y avait un côté, c'est les cahiers, c'est les petites notes qu'on écrit autour de la collection. Ouais. Et en fait, petit à petit, ça se met à devenir de plus en plus important. Les textes sont de plus en plus longs. Et donc, je pense que ça a peut-être un petit peu échappé aussi.
Enfin, il les a bien nus, quoi. C'est en quelque sorte. C'est-à-dire, sa prééminence faisait qu'on ne pouvait pas le priver de son jouet. Mais il y avait quand même... Alors, comme s'il revenait toujours à cette ancienne, qui est « Je veux être chez Gallimard, je veux avoir ma revue ». Et avec en ligne d'horizon quand même, la NRF quand même. Je veux diriger la NRF, je veux être Paulhan quand même.
Oui.
Sans vouloir raccourcir, c'est quand même « Je veux être Jean Paulhan ». Je veux être Jean Paulhan ou rien, quoi. C'est un peu ça. Et finalement, il va devenir en quelque sorte Jean Paulhan en récupérant la NRF en 77. Et là, vous dites de façon assez cruelle qu'il... Il y arrive au moment où c'est plus la peine, quoi.
Bah oui, on disait tout à l'heure que le livre est devenu un peu plus un objet de consommation et il laisse un peu derrière lui les revues quand même. Ce que je regrette moi encore plus 50 ans plus tard.
Ça ne coïncide plus avec la façon qu'ont les gens de découvrir la littérature.
Je pense qu'il y a eu les années 70 qui sont passées par là, la consommation de masse, etc. Enfin, plein de choses qui seraient longs de lister, mais qu'on connaît assez bien. Et qu'en fait, ce mode d'usage-là, ce mode de consommation de la lecture et du temps long se fait complètement happé par les grosses industries qui arrivent. Télévision, cinéma, etc. Enfin, des choses qu'on connaît.
Donc c'est une forme d'obsolescence. La revue est un objet obsolète et il en hérite au moment où finalement plus personne...
De celle de la NRF, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il part en fait, c'est ça qui est dommage. C'est que on lui propose la NRF à condition qu'il... Il ferme ses cahiers, évidemment.
On va pas faire les deux. Et voilà.
Tu prends ton... Parce qu'en fait, pendant que les cahiers grossissent d'un côté, la NRF se réduit de l'autre, etc. Donc on lui dit, bon, bah coup de bol, on va prendre les cahiers avec la nébuleuse et on va les On va faire les vases communicants un petit peu. Ça se passe pas exactement comme ça.
On met quand même à la retraite ce pauvre Marcel Arlan.
Oui.
Enfin, pauvre, je ne sais pas si c'est pauvre. C'est bon. Mais il y a quand même aussi une sorte de guerre de succession. Arlan, qui est un octogénaire, qui a le sentiment qu'on le met un peu dehors, quand même. Vous ne le dites pas, parce que vous aimez votre personnage.
Parce que Lambris, qui lorgne sur sa place depuis 15 ans.
Voilà, hein, mais il y a quand même un côté chez lui, je suis patient, mais j'attends mon heure, mais il y a un côté impitoyable chez lui. Hein. Je ne sais pas si
le
c'est...
Le chasseur.
Je sais pas si, oui, je ne sais pas si c'est le Bruxellois qui est comme ça, mais y a le chasseur guette, et on voit... Enfin, il y a un petit épisode, vous mettez Arlan... Le dernier texte que fait Arlan pour son dernier numéro de la NRF est assez pathétique de voir un vieil. Il aurait dû mourir plus jeune, quoi. Lui. Poulain est parti à temps, alors qu'Arlan n'est jamais parti à temps.
Et mais ça, chez Gallimard, c'est vrai que. Enfin bon.
Alors, et vous avez deux expressions, à mon avis, assez un peu cruelles aussi. Vous dites d'abord que c'est une victoire à la Pyrrhus.
Ouais.
Il gagne sans vraiment gagner. Et puis après, vous dites que tout d'un coup, celui qui était le découvreur devient le gardien du temple.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et c'est ça qui est un peu... mais je pense que ça, c'est presque... c'est difficile à éviter avec l'âge. Mais je pense qu'il y tenait tellement qu'il arrive, en fait, à une place qu'il désirait 50 ans plus tôt. Et entre-temps, il s'est quand même passé des choses dans le réel qui font que cette place-là, elle s'est transformée. Et que lui, il se dit, mais je vais peut-être... Mais de bonne foi, en plus, de bonne volonté, en disant, mais je vais continuer de faire des revues et donner à lire comme j'ai pu lire, moi. Et sauf qu'en fait, dans les années 80, mais des lecteurs aussi affamés que lui, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, je ne sais pas où ils sont, et la diffusion de la NRF a diminué en plus. Donc il y arrive, mais je pense qu'il le sent un petit peu, ses auteurs le sentent aussi, il y en a quelques-uns qui
commencent à lui échapper un peu, ouais.
Voilà, pas qu'il le quitte nécessairement dans le chemin, mais qui du côté de la NRF, qui est quand même un peu la figure de l'institution, encore plus... Enfin, à l'époque, elle l'était beaucoup du texte classique. Il y en a quelques-uns qui disent non, moi j'aimais bien le côté un peu recherche, un peu amitié, un peu n'importe comment avec les cahiers. Si maintenant c'est pour arriver dans le dogme de la NRF, il y en a qui disent moi je vois plus vraiment l'intérêt. Donc il y en a qui sont partis. Et lui-même d'ailleurs, ce qui est paradoxal, en ayant fait un travail pendant 30 ans, un petit peu d'autogestion littéraire, si j'ose dire. Finalement, il se retrouve à récupérer le gardien du temple, et tout ça. Donc, ce qui est un petit peu dommage, je pense pas qu'il ait perdu son flair et il a continué de publier des bonnes choses dans quelques numéros de la NRF, dont que je cite, il me semble. Mais il se retrouve, ça l'a peut-être piégé un peu d'une certaine manière aussi, ouais.
Enfin, c'est le piège de l'âge aussi.
Ouais.
Alors, on va arriver au bout de notre entretien, mais on pourrait en parler longtemps. L'édition, c'est un monde passionnant, même si ça n'intéresse pas suffisamment de gens. Le fait de faire un best-seller. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Qu'est-ce qui reste de Lambrix? Quels auteurs déjà? Et on lui doit. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cet homme que vous traitez? Vous disiez qu'il a du swing et non pas du rock'n'roll.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut garder du swing de Monsieur Lambrix?
Qu'est-ce qu'on peut aller son swing? Ouais, c'est Jacques Reda qui me disait ça. Parce que moi, ce que je disais au début, je le trouvais un peu rock avec le côté les repas et tout ça. Il en reste quelques-uns. Moi, je lis beaucoup Gérard Massé, avec qui je me suis très bien entendu et je trouve qu'il fait des petits livres admirables aussi chez Gallimard. Jean-Marie Laclaftine, qui a fait des beaux romans, je trouve justement assez mordant sur le monde de l'édition.
Lui, il fait partie de la dernière génération.
La dernière génération.
Voilà. Christian Bobin était aussi un des derniers. Bobin,
évidemment,
des dernières découvertes.
Qui est parti il y a peu. Jacques Reda, qui est très âgé, mais que je trouve plein d'humour et qui continue de publier parfois, soit des textes, soit des poèmes de promeneurs et tout ça.
Qui lui a succédé d'ailleurs à la NRF. Hein,
la NRF, bien sûr. Ouais. Et qui était aussi très lucide sur la NRF est une grand-mère.
Je crois lui confier.
C'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'il en reste? Moi, j'essaie d'en discuter un peu à la fin du livre, et en plus j'ai un peu évolué dessus, mais... moi, j'ai tendance à pas être que décliniste là-dessus, à me dire, mais c'était mieux avant, et en fait, l'édition, là maintenant, il n'y a plus rien. Je crois pas du tout. Et j'essaie pas de défendre mon bout de bras, mais je crois.
Vous avez l'avantage d'être jeune et de pas être dans une. Voilà.
Ouais.
Vous n'avez jamais connu un chemin comme moi qui.
Non, mais. Et après, je le vois aussi. Je vois qu'il y a des maisons qui émergent. Je vois qu'il y a d'autres modes de circulation du livre. Ce que j'ai tout à l'heure, mon Colette Lambrix a fondé sa petite maison qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs, récemment. L'arbre vengeur,
non, mais il y a une richesse.
Il y en a beaucoup, des
mais est-ce que
elles sont distribuées? Voilà. Et en fait, bon, après, mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est un mouvement général. Et après, il faut s'y adapter. Je pense la même chose du cinéma, parce que j'aime beaucoup aller au cinéma aussi, où à un moment donné, tout est pris par des grosses industries, et que du coup, ce qui reste sont des chemins alternatifs, justement pour donc, le livre, pour les films, etc. Mais en revanche, je pense pas du tout que ça soit. Mort et enterré, absolument pas. Je pense que les livres et la littérature, de toute façon, des livres comme Le Chemin étaient déjà, circulaient pas tant que ça. Que donc, en fait, aujourd'hui, bah, ça circule peut-être un petit peu moins, peut-être un peu plus, mais qu'en fait, ça n'a jamais tant circulé que ça, la littérature, si on y regarde de plus près. Et donc, je suis pas si inquiet que ça. Jacques Reda ou d'autres le sont extrêmement, parce qu'aujourd'hui, tout va mal, et que... Nanana. Moi, dans Ce Chant des Sirènes, vraiment, je pense qu'il reste des choses. Ce livre existe. Je disais un mot sur POL à la fin aussi.
Oui, vous faites la transmission avec quelqu'un qui fonctionnait un peu de la même façon.
Oui, c'est ce que vraiment, et ça a vraiment été un hasard. Mais j'étais en train de terminer le livre et j'entendais, je sais plus, Emmanuel Carrère et d'autres vraiment parler du décès de POL. Et je me dis, mais j'ai l'impression, mot pour mot, d'entendre ce qu'on disait de Georges Lambrix. Éric Orsenna, avec qui je me suis dit, m'a dit, mais il faut faire vivre cette mémoire-là de Lambrix, c'est des souvenirs incroyables, etc. Donc il reste quand même quelque chose, et à la fois de Lambrix. Le chemin, moi je suis con. En fait, il dit à un moment donné, il dit, mais ce que je fais là, c'est œuvre pour dans 50 ans. On est dans 50 ans.
Et donc, on peut
regarder. Et c'est un hasard, j'ai pas prévu ma date. On est dans 50 ans, et s'il y a ce livre-là qui sort, et autour de moi, il y a des gens absolument pas versés dans la littérature, et en tout cas, s'ils sont lecteurs assez peu dans
l'édition, dans le monde de l'édition,
et encore moins à ce qui pouvait se publier au chemin, qui l'ont lu, qui ont ouvert des onglets, qui ont acheté d'autres livres à côté. Pas changer la face du monde non plus, hein. Mais je crois que il reste des petites choses. Évidemment, il faut jamais s'illusionner sur la force des livres et ce qu'on en fera aujourd'hui et sur l'état du monde. Je pense qu'il y a 50 ans, c'était mieux que ça.
C'est ça, c'est pas l'âge d'or. Hein,
voilà, c'était pas l'âge d'or du tout. Et donc, bon, ma foi, les livres continuent un peu de circuler. On en parle là et ils auront le chemin qu'ils auront.
Et le chemin continue.
Et le chemin continue quand même. Je crois.
Vous êtes optimiste.
Vraiment.
En tout cas, je voulais conclure en disant que c'est un livre vraiment, vraiment passionnant. Les biographies d'éditeur devraient intéresser plus de monde parce que c'est vraiment un parcours de vie saisissant, un parcours passionnant. On n'a pas parlé de tas de gens, Georges Perros, tout ça. C'est un carrefour et vous en avez fait un personnage sensible. On sent que vous êtes tombé en amitié avec ce personnage. Parfois, j'attendais un peu de perfidie. Finalement, non. Voilà. Et puis, en plus, c'est édité par son éditeur. Mais on aimerait effectivement que ce genre d'initiative qui consiste à dire derrière une maison d'édition, il y a un éditeur. Vous soyez un des premiers à le relancer, à faire que désormais, les éditeurs se battent pour éditer des biographies d'éditeurs. En tout cas, merci beaucoup à Arnaud Villanova. Le dernier mot est pour vous.
Non, je voulais simplement dire un mot peut-être sur le livre en tant que récit. C'est qu'il me semble quand même, ce que j'ai essayé de faire, qu'il soit lisible par qui n'est pas versé dans l'édition et dans l'histoire littéraire nécessairement, justement parce que je trouve que le format biographique est un bon chemin, ça boucle un peu sur ce terme-là, mais c'est symbolique visiblement, que c'est un bon moyen, un bon chemin pour s'intéresser à d'autres vies que la sienne et à des domaines vers lesquels on n'a pas une spécialité. Je parle un petit peu d'un roman qui s'appelle Évariste, sur un mathématicien dont François Desérable a fait une biographie que je trouve intéressante alors que je ne m'y connais pas en exponentielle mathématique. J'ai aimé lire La vie de Limonov alors que ma culture de la Russie il y a 5 ou 10 ans n'était pas extraordinaire. Je peux aimer lire une biographie d'Einstein, d'Étienne Klein alors que je n'y connais rien en physique quantique. Et je pense que la biographie littéraire permet ça. Et que c'est une des choses qui m'a plu, c'est que j'ai eu de bons retours de gens qui ne sont pas du tout dans l'histoire littéraire et m'ont dit, mais oui, en fait, c'est lisible et c'est pas uniquement un...
Ah oui, non, c'est pas, je pense que c'est pas un livre pour spécialistes. Hein.
Voilà. Voilà.
N'ayez trop de crainte.
Je tenais à le dire.
Donc, on peut le lire.
Voilà, je tenais un peu à le dire parce que c'est important et qu'on se dise pas, bon, voilà, oui, c'est pour...
C'est pour le petit monde, non.
Voilà.
Même si on aimerait que le petit monde et si tous les éditeurs l'achetaient, déjà je pense que ça ferait un joli succès et ça leur apprendrait plein de choses. Merci beaucoup Arnaud en tout cas.
Merci à vous.